Donc, conférence qui suit avec Nicolas Fructus, David Camus, c'est autour de Lovecraft et Kadat, sujet ô combien intéressant.
Il n'y a pas de batteur.
Donc, merci Madame la Présidente, Valérie. Et la participation de Raphaël Granier de Cassagnac également. Et Jean-Luc Rivera. Tout le monde est là. Installez-vous, messieurs dames. Je crois qu'il n'y a que des messieurs d'ailleurs.
Non, il n'y a que des messieurs là.
On va parler de la manière dont on a travaillé sur cet ouvrage-ci, donc, qui est inscrit à l'univers de Lovecraft, qui est un ouvrage assez particulier. C'était une expérience unique et c'est un livre qui nous a tous surpris par son succès en fait et sa durée. Je vais laisser parler notre modérateur.
Ah ben, merci beaucoup David, je suis content d'apprendre qu'on va parler de ça, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Non, c'est... On va parler. On commence ou on laisse les 2 minutes de grâce habituelles?
Je veux juste 2 minutes pour essayer de trouver quelque chose.
Oui,
là,
et moi je
parce que je sais qu'il y a
un café. Bon. Est-ce qu'il y a un organisateur pour un café?
Pour plusieurs.
Je vais aller chercher.
Je peux vous prendre 2 minutes? Oui.
Vous avez des amis qui souhaitent venir écouter la conférence?
Parce que je sais qu'il y a une ou deux personnes qui étaient en train de fumer là-haut ou tout le bas.
Raphaël, je suis sur un autre PC, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît?
Ouais, ça fait longtemps que j'en ai plus non plus. Mais...
C'est pour trouver ma clé.
Ah oui. Ouais, juste pour chercher sur ma clé.
En fait, je vais me mettre plutôt là.
Comme tu veux.
Ben, comme ça, c'est mieux que ce groupe.
Elle apparaît pas.
Elle est formatée Mac?
Ouais, mais elle est normalement formée.
Excusez-moi, mais elle est pas installée. Et il y a projection, hein, dossier projection.
Sur le dossier?
Ouais. Il faut la regarder tout basculer. Et puis j'ai enlevé sur d'autres images, mais il y a du cadastre, mais on peut en faire des filets, il y en a une bonne trentaine de cadastres.
Encore des choses sur la clé?
Super, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais merci. Et alors, dedans, il faudrait faire sauter...
C'était pour votre vacances, ouais.
Alors, de là... Non. C'est en contrôle. En contrôle. Jusque là. Plus ça.
Avec shift.
Shift. Jusqu'à CAD. CAD, c'est CADAT. De là à là.
Voilà. Mais pas CAD.
Non, CAD, pas CAD. Voilà. Voilà. Et ça peut aller à la poubelle. Ok, et puis. De là à là aussi. Ça va bien quand même. On
va
t'en faire quelques-unes quand même.
Ouais.
Je pense que ça veut m'aider quand même. Voilà. Et puis il y a juste à mettre en fait chaud.
Et c'est là-haut.
Ah oui, d'accord, c'est là-haut vous. Ah bah non, c'est bon.
Ça a l'air quoi? Ça reste des filières
ouais,
automatiques.
Ouais, j'en ai pas mis sur mon écran. Ah ouais. Magique. Merci. de Nyx.
Le petit château.
Le tirage de l'entrée du temple de Satoga, oui, que tu m'as offert, je l'ai accroché sur la porte de ma chambre à coucher. C'est long.
Non, c'est vrai.
Rentrer, tu rentres dans le temple de Satoga.
Et ça
tu
va
dans ma chambre.
Ça va.
Et ça marche. C'est...
Ah oui, c'est particulier quand même. Ah,
ouais. Magnifique. Bah, je pense qu'il doit y
elle est très druidienne, celle-là. Ouais. En fait. C'est un hommage, celle-là c'est vraiment un hommage.
Ah, moi j'en veux bien, mais ah, voilà. C'est limité, mais tu comptes. Tu prends le partage,
Annie ?
C'est lourd, ça va ?
Bien, bah. Bien, bah, nous allons peut-être pouvoir commencer. Maintenant que nos explorateurs de Kalat ont fait ce qu'ils ne devraient pas faire, c'est-à-dire prendre du café, ce qui empêche les rêves. Donc à partir de là, on ne peut pas se rendre à Kalat. Mais bon, nous allons, comme avait commencé à le dire David Camus, que je pense vous connaissez tous en tant que traducteur de HPL, et aussi d'un manuscrit totalement inédit et inconnu qui a été découvert et traduit pour la première fois dans le livre. Et nous avons à côté Raphaël Grammy de Cassagnac, dit l'innommé, qui est le haut rêveur, qui a été le maître d'œuvre de ce Bedker, on peut dire, de Kalat, et qui nous fait le plaisir d'être de retour parmi nous pour un dernier séjour dans notre monde. Ouais. Hein, c'est ce qu'il nous explique à l'intérieur, donc profitons-en. Et enfin, nous avons Nicolas Fructus, qui est aussi connu à Kalat sous le nom d'Auguste Philistin, qui est cartographe et rêveur éveillé. Et donc, ces trois intrépides explorateurs de Kalat, plus d'autres, sont allés sur les traces de Randolph Carter, qui fut le grand explorateur des contrées du rêve, et dont le biographe, comme vous le savez, fut Howard Phillips Lovecraft. Donc, peut-être pour rentrer tout de suite, pourriez-vous nous dire d'abord, pour si jamais il y a des gens qui n'étaient pas au courant, qu'est-ce que Kalat ?
Qu'est-ce que Kalat ? C'est toi qui s'est mis à ça. Kalat, c'est ça. Kalat en France, j'ai envie de dire, c'est, d'abord, c'est un malentendu.
Ouais.
C'est un malentendu parce qu'on a longtemps cru, pendant et même nous, c'est-à-dire jusqu'en 2010, on a longtemps cru que Kalat était une cité. C'est-à-dire qu'on a, on avait tous lu « Démons et merveilles » de Lovecraft, ou devrais-je plutôt dire d'après Lovecraft, l'ouvrage consacré aux nouvelles, ou à quatre des principales nouvelles de Lovecraft portant sur les contrées du rêve, et qui était publié en 2018, et dont la première phrase était « Longtemps, Carter rêva de Kalat, mais... trois reprises, il en fut chassé, etc. » Et alors, on trouvait ce livre extraordinaire, on ne comprenait pas forcément tout ce qu'il y avait dedans, on trouvait qu'il y avait des phrases qui étaient un peu bizarres, mais on s'était dit « c'est bizarre parce que c'est Lovecraft, Kalat, on a tous envie d'y aller, cette ville, elle a l'air juste incroyable. » Et en parallèle du travail autour de Kalat, qu'on avait envie de mieux saisir, mais peut-être aussi de mieux saisir justement parce que c'était flou et bizarre, j'ai commencé à traduire... à retraduire les nouvelles de Lovecraft. Et là, je dis à mes camarades, alors qu'on avait commencé à travailler, hey, « Eh les gars, la cité en question, c'est pas Kalat. Et elle s'appelle pas Kalat. Kalat, c'est pas une cité, c'est une montagne. C'est une montagne, c'est la plus haute montagne des contrées du rêve, et c'est la montagne au sommet de laquelle se trouve, se dresse plutôt, le palais d'Onyx où vivent les dieux. » Et le précédent traducteur, il a traduit « Merveilleuse cité du soleil couchant » par Kalat. C'est une erreur. C'est juste merveilleuse cité du collège du soleil couchant. Elle n'a pas de nom, cette cité.
Ça, c'est une erreur grossière. Ce qui est, pour l'anecdote, ce que tu racontes, ça s'est passé pendant la seule fois où tous les acteurs du bouquin se sont vus. Donc il y a deux autres écrivains qui sont Mélanie Fazier et Laurent Pougeois. Et on s'est vu qu'une seule fois tous ensemble pour faire ce bouquin, et on a découvert ce truchement parce qu'on était là autour d'une table et on disait mais non, Kalat c'est ça, et puis toi tu nous disais mais non, Kalat c'est pas ça, c'est autre chose, et on est allé voir le truc et on s'est rendu compte qu'effectivement il y a une erreur mais grossière de traduction dans la version française qu'on avait tous lu.
Et ce qui est marrant, c'est que on a rêvé, pareil, la plus intéressante, mais on a rêvé, c'est fou, ouais. On a rêvé en France pendant 60 ans quasiment, enfin mettons 55 ans. On a rêvé d'une cité qui vraiment n'existe pas. Parce que même les cahiers... Il y a eu en 1969 un cahier de Lerne, un numéro de cahier de Lerne consacré à Lovecraft, où Kalat est décrite comme une cité. ce qu'elle n'a jamais été. Mais ça, je dirais, enfin, à ma connaissance, je ne connais pas les traductions de ces textes en polonais, en italien, en espagnol, etc. Enfin, à ma connaissance, il n'y a que les Français qui ont pu faire une erreur pareille, c'est quand même, il faut le faire. Et nous, on était persuadés que c'était une ville, et cette ville nous faisait rêver, peut-être aussi que le nom de la ville nous faisait rêver, et peut-être même qu'on peut se poser la question, je me la pose maintenant, si le texte avait été correctement traduit, si Kadat n'avait été, entre guillemets, qu'une montagne, peut-être qu'on n'aurait jamais fait ce livre. Et il faut dire un autre truc, peut-être, enfin Raphaël, tu dis après, promis, je vous laisse parler, mais donc on a su très tôt qu'il s'agissait d'une erreur, et ben on a poursuivi quand même.
Ouais, peut-être pour ajouter, Kadat, c'est aussi un château d'onyx. Hein.
Ouais, oui.
Au sommet d'une montagne, il y a quand même une construction.
Oui, il y a un palais, le palais où vivent les dieux, mais il est au sommet de la montagne Kadat.
Je reviens juste quand même sur l'explication, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas le principe de ce genre de livre. Donc, le principe, c'est l'écriture croisée de quatre écrivains qui écrivent des nouvelles à l'intérieur d'une cité fantastique. Et le développement de cette cité fantastique, bah, j'ai eu le grand plaisir de pouvoir développer toute la partie graphique à l'intérieur de ce livre. Donc c'est vraiment, pour vous compreniez quand même, c'est-à-dire il faut vous imaginer l'écriture croisée de quatre personnes avec des histoires qui ne se recroisent pas forcément. Il y a parfois des passerelles, mais il y a des temporalités différentes, des lieux différents. Et la seule réunion, en fait, des textes se fait souvent par le truchement des dessins et qui eux-mêmes amènent des passerelles d'auteur à auteur. Donc il faut que vous compreniez aussi que l'écriture s'est faite indépendamment pour chacun des auteurs. Raphaël ayant été celui qui recentrait l'intégralité des informations, et on en rediscutait souvent ensemble pour savoir comment allaient s'emboîter ces choses-là. Et tout ça, ça préfigurait aussi la façon de travailler. Là, je parle vraiment des choses très formelles, hein, mais c'est pour vous compreniez quand même, parce que ça reste des ouvrages assez compliqués de ce point de vue-là. Mais donc, il y a la succession des textes qui se fait en double lecture. Il y a soit une lecture qui se fait dans la chronologie des pages qui a été présentée. Donc vous passez de bout de texte chacun des auteurs. Soit vous avez la possibilité de lire, puisqu'il y a des retours à chaque fin de texte qui vous permettent de continuer en lisant toujours le même auteur tout au long du livre. Donc vous allez par exemple lire la page 3 qui vous renvoie à la page 19, qui vous renvoie un peu comme un livre. Donc vous êtes le héros et vous restez toujours sur le même auteur dans une lecture continue de cette personne. Voilà.
Oui, alors... C'est ça qui est formidable quand on est modérateur avec des intervenants comme ça, c'est qu'ils anticipent les questions et tout, et on n'a plus rien à faire. Mais,
ça bon, peut être un problème. Hein.
Non, au contraire, c'est tout à fait passionnant. Et quand même, puisque vous avez commencé à parler déjà de la manière dont le livre a été conçu, moi j'allais dire, pour rebondir sur ce qu'a dit David, c'est que Skadat n'était pas une cité, mais l'avantage des terres du rêve, c'est que justement vous avez rêvé la cité quelque part, en ces différents quartiers, etc. Donc comment est-ce que ça vous est venu?
L'idée, c'était quand même de parler de Lovecraft avant tout. Et donc les éléments qu'on a mis dans Kadat sont tous des éléments Lovecraftiens. On retrouve toute la dimension d'horreur qui n'est quasiment pas présente dans les contrées du rêve en fait, mais qui est présente dans la plupart des autres textes, donc on l'a mise. On a mis beaucoup de choses des contrées du rêve. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? On a mis Lovecraft lui-même. Tu as mis Lovecraft lui-même.
On a mis Lovecraft lui-même. On a aussi mis beaucoup de nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que on est tous des grands adorateurs de Lovecraft et on est tous parfaitement conscients de nos limites, c'est pas ça, mais de l'impossibilité qu'il y a à faire des pastiches de Lovecraft ou de... Il y a un côté vain. On ne va pas imiter Lovecraft. Personne ne peut écrire comme Lovecraft. Il n'y a que lui. Donc ça, on le savait très bien. Et c'est plus, je dirais, à voir comme un hommage à Lovecraft. On s'était dit dès le départ qu'on allait garder nos personnalités, nos styles, notre sensibilité. Et chacun de nous a décidé de rendre un hommage à sa manière, aussi, j'allais dire... Enfin, juste, c'était pas le terme, mais... beau, je ne sais pas si ça a du sens, beau que possible.
Et d'ailleurs, je pense que là, l'hommage, c'était en même temps peut-être un clin d'œil, parce que justement, parmi les idées reçues en France, c'était depuis l'époque de Jacques Bergier, Lovecraft, le reclus de Providence, l'homme qui ne voyait personne. Et là, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai du tout, que Lovecraft avait quand même un peu voyagé dans sa vie, etc. Et là, de le transformer en intrépide explorateur des contrées du rêve, c'était aussi, je suppose, un clin d'œil voulu.
crois que c'est toi qui as écrit ça.
En l'occurrence, pour revenir un peu aux sources, alors, moi c'est vrai que je me suis aussi un petit peu inspiré du château de Kafka, avec ce personnage d'arpenteur donc qui cherche à pénétrer un château, et je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant avec l'œuvre de Lovecraft. Le personnage qui arpente les rêves chez Lovecraft, c'est donc Carter, qui d'une certaine manière est un peu son double dans littéraire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il s'agit d'un double. À l'intérieur de nouvelles, ils sont toujours écrites à la troisième personne du singulier. C'est marrant, on aurait pu imaginer que Lovecraft allait se mettre en scène à la première personne. Alors c'est pas le cas. La plupart des nouvelles horrifiques, si je pense par exemple aux Montagnes Hallucinées, l'Abîme du Temps ou l'Appel d'Orthoulou, enfin, ou d'autres, vont être écrites à la première personne du singulier, mais ils ne vont pas nécessairement mettre en scène, pas du tout d'ailleurs, des doubles de Lovecraft. Le double de Lovecraft, ça va vraiment être Carter, et pour le coup, il y a une certaine distance qui s'installe avec cette troisième personne du singulier. Et j'ai voulu retrouver Lovecraft lui-même, c'est vrai, et notamment, comme pour moi, c'est un auteur qui n'est pas mort, même s'il disparaît en 1937 d'un cancer des intestins, on peut toujours imaginer qu'il continue à rêver dans les contrées, à vivre dans les contrées du rêve, et je voulais le présenter là et fondre un peu les deux. Il faut voir que les contrées du rêve chez Lovecraft, c'est une partie particulière de son œuvre, hein, c'est la partie la moins horrifique, on est presque proche de la fantaisie que du fantastique, mais c'est une contrée, donc, comme le disait Jean-Luc, à laquelle on accède en rêvant, donc le café a priori effectivement peut nous empêcher d'y accéder, mais il y a des passerelles très curieuses, il y a des passerelles physiques également qui existent entre notre monde et les contrées du rêve, c'est-à-dire que par moment vous pouvez descendre un escalier ou ouvrir une porte et vous retrouver quand même, alors que vous n'avez pas rêvé, dans les contrées du rêve.
Tout ça, je vais expliquer.
Bon, mais c'est vrai qu'on a quand même du mal, malgré tout, à imaginer Lovecraft se déplaçant à Zodiac ou à d'autres zèbres, puisque ce sont les moyens de transport les plus connus, les plus usités dans le Canada.
Le Chantac.
Alors peut-être quand même, il y a une, puisqu'on vient de commencer à aborder Lovecraft et son écriture très particulière, Nicolas Fructus, comment fait-on pour réussir à illustrer Lovecraft comme ça?
Alors, c'est à la fois une sacrée question et un sacré problème, parce que déjà parce qu'il y a un énorme patrimoine visuel qui existe sur des, un peu comme il peut y avoir pour Jules Verne ou pour d'autres grands auteurs, il existe énormément d'images, et l'un des problèmes, c'est de pas commencer à rouvrir des pages web pour voir tout ce qui a été fait, parce que là, c'est vite le cauchemar, là, au sens propre du terme. Et d'autant plus que le jeu de rôle existe, et le jeu de rôle a provoqué des développements inconsidérés d'images, de nombre d'images qui ont pu être faites sur Lovecraft. L'autre problème aussi, c'est que un certain nombre de ces visuels ont été faits ou ont pu être faits en fonction de mauvaises traductions. Donc on retrouve, non seulement il y a déjà le décalage du dessinateur, mais il y a aussi le décalage du dessinateur qui n'a pas lu la bonne description. On s'est retrouvé avec David justement à retraduire systématiquement dès qu'il y avait une description de créature pour être sûr de savoir quelle tête elle pouvait bien avoir. Parce que il y a quand même c'est sur les maigres bêtes de la nuit, elles ont des queues poilues dans les anciennes traductions.
Barbie.
C'est une griffe.
Barbie.
Hein Barbie, oui, ouais. Oui,
non, mais c'est Barbie Tail, et le Barbie, le précédent traducteur s'était dit probablement, j'imagine, hein, Barbie c'est barbu, donc la queue barbu, donc poilu, sauf que Barbie c'est les barbillons, c'est le fil de fer barbelé, là, c'est avec des piquants.
Ouais.
Absolument, c'est.
Ouais.
Oui, oui. On va pas donner son.
Enfin, bon, ouais,
si,
ouais,
on peut donner son nom puisqu'il est dans les ouvrages. C'est... Mais sinon, Carter, j'ai envie de vous dire, c'est totalement anecdotique. Malheureusement, non, mais c'est totalement anecdotique.
Il y a des vrais contresens, en fait.
Terrifiant. Il y a des. En fait,
je n'ai. La phrase du début, c'est ça. C'est une vraie fausse liste.
Je n'ai pas retraduit les contrées du rêve. Je les ai traduites. Ça n'a jamais été traduit. Mais il faut voir là aussi, c'est une bonne leçon pour nous tous. Hein, j'allais dire d'humilité, c'est que. Et intéressante aussi en termes de littérature, c'est-à-dire que ça n'a pas empêché quand même le texte de marquer les esprits, malgré tout, c'est-à-dire que peut-être que le texte était encore plus fort qu'une mauvaise traduction, d'une part, et d'autre part, nous, et là c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, ben on l'a pas vu. Enfin, je veux dire, on l'a pas vu, si long avait été repéré, bon, mais d'autres choses n'avaient pas forcément été. Il y a d'autres exemples, j'en avais, à un moment donné, j'avais commencé pour bon pour adresser une liste, mais je veux dire, j'aurais passé plus de temps à adresser la liste des trucs mal traduits qu'à traduire. Et déjà, c'est assez particulier, donc ça servait à rien. Mais je me souviens d'un truc où the unfamous garden party at the, non lawn party at the Vickers. Donc littéralement, si vous voulez, la fameuse lawn party, c'est une réception, hein, c'est comme une garden party. La fameuse réception chez le vicaire, si vous voulez, qui avait été traduite par la redoutable partie de tennis chez le vicaire. Lawn, il a dû dire, c'est la pelouse. Lawn, une partie sur une pelouse, c'est forcément du tennis. On est en Angleterre, plus ou moins. Bon, c'est tout est comme ça, mais tout. C'est juste hallucinant. On a un autre texte. J'ai presque envie de dire quand même, on a un autre texte qui a une certaine valeur aussi, hein, mais quand vous lisez Démons et Merveilles, et entre parenthèses Démons et Merveilles, c'est une invention pour l'édition française. Démons et Merveilles, ça n'a jamais été écrit par Lovecraft. Et pareil, l'ordre des nouvelles, si vous voulez, Lovecraft écrit les nouvelles dans un certain ordre, il met Randolph Carter, les nouvelles, voilà, ça se suit. Ça n'est pas l'ordre qui est respecté dans l'édition française. Chez Lovecraft, la dernière nouvelle, c'est À travers les portes de la clé d'argent, et bon, je fais un spoiler, de cette manière, ça se termine mal. Mais c'est pas du tout l'ordre qu'a respecté Démons et Merveilles, où il place à la fin la recherche de Kadath, où ça se termine bien. C'est juste stupéfiant. Mais je dirais, c'est aussi notre responsabilité à nous, lecteurs.
Et donc c'est en traduisant Démons et Merveilles que t'es définitivement devenu fou, c'est ça.
Donc, alors, revenons alors continuons sur l'illustration de Lovecraft à partir de ces traductions là correctes.
Oui, donc il y avait déjà ce souci là. Après, l'un des autres soucis, c'est un souci affectif. Je suis un fanatique, je suis un inconditionnel de Philippe Drouillet, et il fait partie de ceux qui ont quand même vraiment marqué c'est l'un des premiers à avoir vraiment fait de la mise en scène systématique de visuels lovecraftiens dans son travail, enfin à tel point qu'on a tendance à associer même des choses qui ne sont pas du tout Lovecraft chez Drouillet à du Lovecraft. C'est un peu, si j'avais à faire un parallèle, c'est un peu la même chose entre Robida et Jules Verne. C'est-à-dire qu'il y a des choses de Robida que Robida a faites et on les associe à Jules Verne, alors que c'est même pas du Jules Verne, c'est du Robida. Et il y a une sorte de porosité entre les deux qui est assez intéressante. Et je trouve que en France, le côté on découvre Lovecraft et dans la foulée, des gens comme Drouillet travaillent dessus, il y a vraiment une filiation. Donc l'un des buts, c'était pas de se barrer dans quelque chose à la Drouillet. Ça, j'ai envie de dire, ça c'était une des premières difficultés, mais c'est plus d'ordre psychologique. Mais c'est important, c'est pas négligeable quand même. Surtout que c'est, à mes yeux, l'un des seuls qui réussit à vraiment représenter le non-euclidien dans l'image. C'est-à-dire, c'est d'arriver à faire des choses complètement tordues, mais qui s'équilibrent graphiquement, mais qui sont malgré tout complètement tordues. Donc ça représente quelque chose, mais il n'y a rien qui tient la route. Et ça, je trouve que c'est très prégnant. C'est un champ sémantique. C'est de l'ordre du conceptuel qui existe profondément dans l'écriture de Lovecraft, je trouve, et que l'on retrouve trait pour trait, sans faire de jeu de mots, dans l'œuvre de Drouillet. Donc voilà, ça sont des. C'est un peu fort de toutes ces petites réflexions que c'est pas forcément simple d'attaquer. Ça n'a pas forcément été simple d'attaquer cet ouvrage. Et d'autant plus parce que c'était un peu le cas pour tout le monde. On a commencé le projet en se disant, on va travailler sur du Lovecraft, c'est super. Pour s'apercevoir assez vite qu'on avait tous lu du Lovecraft 25 ans avant. Et en se disant, on était adolescent, jeune adulte, est-ce que finalement Lovecraft tient encore la route? Ou en se disant, est-ce que c'était aussi profond qu'on a pu le ressentir à l'époque? Est-ce que c'était pas juste une lecture d'ado et puis qui va nous paraître bien fade ou bien en deçà, vu ce qui a été écrit depuis? Donc il y a eu quand même cette première interrogation. Et malgré tout, je crois que la plus grosse motivation, ça a été de relire. Parce que ça nous a permis de rempiler et de lâcher les visions, alors que ce soit en écriture ou en dessin. Et là, ça se déplie tout seul. Et là, j'avoue que je n'ai pas réfléchi du tout. C'est-à-dire que le but, c'était plutôt, au lieu d'aborder ça au travers d'un style graphique, c'était plutôt de l'aborder sous plusieurs styles graphiques. C'est-à-dire, moi, je me faisais fort d'essayer de travailler de l'esquisse en passant par la photographie, l'illustration sur informatique, un petit peu de travail traditionnel aussi, de mélanger tout ça et d'arriver à faire un ouvrage avec une centaine d'illustrations, mais qui est toutes des approches différentes, de façon à ce que, à force de varier les styles, on arrive à une synthèse qui soit une sorte de synthèse naturelle de l'ouvrage, qui ne se fasse pas par juste un style graphique, mais par justement cette accumulation de pensées, qui correspondait au style d'écriture aussi des écrivains. Comme il y avait quatre pistes différentes à des époques différentes et dans des lieux différents, il fallait que tout ça ait la tête de Kadat à la fin, malgré tout. Et c'est comme ça que je pensais que c'était le plus intéressant de procéder.
Oui, et puis pour réussir à la fin à faire un plan, parce que c'est l'un des intérêts de l'ouvrage, c'est qu'on a la cartographie de Kadat, on peut se balader dans les rues de Kadat, dans ces différents quartiers. Alors Raphaël, comment est-ce qu'on arrive à tracer comme ça le plan d'une ville à partir de textes de quatre auteurs différents?
C'est pas si difficile que ça, surtout pour Kadat, parce que le plan change en fait. Je me souviens, on aura une anecdote après. Mais... Donc la première étape, c'est de recenser vraiment tous les lieux qui sont cités dans les textes des uns et des autres. Donc peut-être on peut le montrer de loin. C'est le plan. Donc il y a plus une soixantaine de lieux qui sont recensés dans les textes des uns et des autres. Donc avoir ce recensement assez précis. Puis après, avec Nicolas, de se mettre ensemble, d'imaginer la structure qu'elle a vue. Donc il y avait ce château immense, là, que vous voyez de temps en temps derrière nous, qui était forcément central. Un des points... on a vachement réfléchi à la façon de marquer, parce qu'on ne voulait pas une ville concentrique, ça a été fait des milliers de fois, on voulait pas avoir une muraille, enfin, toute une série de choses comme ça. Et à un moment, on a eu un déclic avec cette histoire d'éminence. Je ne sais pas si vous les voyez de temps en temps derrière. Il y a dans Kadat, il y a des promontoires qui surgissent là où les grands rêveurs, les gens qui sont très avancés dans leur processus d'entrée en Kadat, sont. Donc il y en a un 5. Il y a celle des quatre auteurs. Il y a une cinquième qui est celle de Lord Curanes, qui est Lord Dunsany, qui est un des inspirateurs de Lovecraft. Et il y en a une sixième qui commence à émerger, oui. C'est la sienne. Donc voilà, donc on a trouvé comme ça une espèce de d'identité forte de la ville. Ce sont ces promontoires qui surgissent. Donc ça donne vraiment un visage assez important à la ville. Et puis après, donc voilà, on s'assoit et puis on distribue les différents lieux sur un plan. Et donc il y a le plan global qui existe, et puis il y a aussi le plan détaillé des cinq éminences dans lesquelles qui ont des ambiances très différentes. Il y a l'ambiance très Lovecraft qui est dans l'éminence de David. Il y a une ambiance médiévale dans l'éminence de Mélanie. Une ambiance orientalisante pour Abdelazar qui est dans l'éminence de Laurent Pougeois. Donc vraiment une identité assez forte comme ça. Et puis après on distribue les lieux. C'est pas si difficile que ça. Alors l'anecdote. C'est que bon, Nicolas est très très fort en géographie, hein, et donc vous voyez, le plan est assez chiadé, et donc à l'intérieur il y a des illustrations qui illustrent des bâtiments précis. Puis à un moment je dis mais regarde, ton illustration elle ne cadre pas avec ton plan. Fait, mais si, je ne me suis pas trompé. On regarde bien dans le détail, effectivement il y avait un petit bug, ce qui nous a indiqué l'absolue nécessité qu'à Kadat les bâtiments en fait se déplacent, c'est évident. Et on s'en est rendu compte à cette occasion-là. Hein. Et au fur et à mesure du temps, la ville évolue. Donc à partir du moment où on a dit ça, le plan, on peut faire un peu n'importe quoi, ça passe.
Alors non seulement la ville évolue, mais on pourrait peut-être rentrer un peu plus dans le détail aussi de tous les différents types d'occupants, parce qu'on n'ose pas parler par moment d'habitants. Il y a des habitants et puis il y a aussi des occupants. De la ville, parce que là aussi vous l'avez beaucoup développé entre les animaux, les humains ou pseudo-humains, mais il y a des dieux, donc y a, là aussi on trouve une richesse dans cette ville énorme.
Ah bah les habitants principaux de Kadat, mais c'est des contributeurs en général un peu, et ça c'est on le trouve dans un texte de Lovecraft, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si tu sais toi, ce sont les dieux en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous humains, et puis même des races extraterrestres et tout ça, mais disons, centrons-nous sur nous. Nous, humains, concevons un dieu, il existe, juste parce qu'on le conçoit, et il est dans les contrées du rêve, qui sont la somme de nos rêves, de nos croyances, etc. Et l'endroit où il se retrouve et où il existe, c'est Kadat. Donc en fait, la plus grosse partie des habitants de Kadat, ce sont des dieux, qui en ce moment sont un peu mal en point, c'est-à-dire ils ne se souviennent pas vraiment que ce sont des dieux, il y a plein de un clochard à Kadat est un dieu, mais il l'a oublié. C'est quoi ce texte, tu te souviens encore?
C'est dans la recherche de Kadat, mais c'est pas forcément des dieux. Il y a effectivement des dieux. Il faut voir une chose, c'est que les contrées du rêve, effectivement, c'est les rêves, mais de peu importe l'univers d'où vous venez. pas forcément que notre univers. Donc ça mélange beaucoup de choses. Et la merveilleuse cité du soleil couchant que recherche Carter, donc Lovecraft, enfin Carter dans la nouvelle, à la fin, un des dieux, justement, Nyarlathotep, lui apprend que cette merveilleuse cité du soleil couchant n'est autre que la somme des images des villes qu'il a vues quand il était bébé dans sa poussette promené par sa nounou, et que ce sont ces premières images qui ont imprimé son cerveau, son cœur, sa mémoire, qu'il porte comme ça en lui, comme l'une des périodes les plus heureuses de sa vie. Et cette cité qu'il recherche, en fait, c'est une cité qui n'existe pas, c'est l'amalgame de souvenirs, c'est le bonheur de l'enfance. Il recherche ça, le bonheur de l'enfance, et il n'arrive jamais à le trouver. Je rappelle juste quand même que quand Carter, dans la nouvelle de Lovecraft, effectue son voyage, c'est pour réclamer aux dieux la possibilité de pénétrer dans sa cité à lui, cité dont les dieux, justement, des contrées du rêve, où les dieux ne veulent pas qu'il entre. Pourquoi ils ne veulent pas que Carter entre? Parce que les dieux aiment tellement cette cité qu'ils veulent se la réserver pour eux-mêmes. Voilà.
Les habitants principaux de Canal sont ces dieux. Il y a des rêveurs, des rêveurs occasionnels, des gens qui viennent de temps en temps, qui se promènent de Canal. Et puis il y a nous, les grands rêveurs, qui sommes là de façon permanente et qui avons notre éminence à nous. Quoi.
Chez Lovecraft, les dieux habitent au sommet des montagnes. Ils habitent au sommet des montagnes pour une raison relativement simple, c'est qu'ils veulent être loin des hommes. Ils ne supportent pas les hommes, les agacent. En plus, les hommes, ça n'aime qu'une seule chose, c'est escalader les montagnes pour essayer de parler aux dieux. Donc, les dieux, dans les contrées du rêve, c'est assez marrant, ils cherchent toujours les montagnes les plus élevées, les plus escarpées, pour essayer de rester le plus loin possible des hommes. Et il y a quand même des gens qui continuent à essayer d'aller les trouver, en l'occurrence Carter. Et il y a une nouvelle que j'adore, qui met d'ailleurs en scène l'un des personnages qu'on retrouve dans plusieurs autres histoires, qui est un vieux prêtre, entouré de chats, évidemment. Et cette nouvelle, c'est évidemment, le titre m'échappe. Ça raconte l'histoire de deux prêtres qui escaladent une montagne, encore une fois, pour parler aux dieux, pour les voir. Et ça se termine très mal, parce que le plus âgé des deux, à un moment donné, il va atteindre le sommet. Et là, tout à coup, la gravité s'inverse, et le personnage tombe dans le ciel, il disparaît, comme ça. Parce que les dieux l'ont puni, si vous voulez. Alors l'autre redescend, etc. Et quand il est vieux, il explique à Carter que oui, dans sa jeunesse, il a cherché à aller voir les dieux au sommet d'une montagne, mais qu'il ne faut pas, que c'est très dangereux, etc. Et bon, Carter, malgré tout, va quand même entamer cette quête, parce qu'il tient absolument à voir cette merveilleuse cité qui le hante, la merveilleuse cité du soleil couchant. Et il se dit que s'il n'entre pas cette quête, sa vie n'aura aucun sens. Donc malgré le risque, il veut quand même aller voir les dieux pour plaider sa cause.
La nouvelle, elle s'appelle quelque chose des dieux, non? On va la retrouver.
Alors donc, il y a les rêveurs, mais on retrouve là, dans Kadat, aussi quelqu'un qui est un autre, qui l'a exploré en tant que non-rêveur, mais qui, lui, nous a fait beaucoup rêver, c'est Abd al-Zadr, que l'on connaît pour son Necronomicon.
Abd al-Zadr,
ouais, c'est un des gros rêveurs, c'est un des grands rêveurs. On est cinq.
Oui, mais dans le livre, ouais. Il expliquait à un moment, j'ai noté ça, que ça fut l'un des explorateurs non rêveurs de Kadat.
Tout à fait, oui. C'est
comme ça qu'il a rendu. Où il a été, où il a disparu mystérieusement dans le désert. Oui.
Pas dans le désert,
c'est à Damas, ouais. Un monstre invisible.
Abd al-Azred est
l'auteur du Necronomicon, que tout le monde connaît.
Voilà, c'est un écrivain, un poète fou inventé par Lovecraft, et qui aurait écrit, selon lui, le Necronomicon, et qui aurait disparu donc en plein jour, sur la place du marché, si je me souviens bien, ouais. À Damas, etc., happé par des créatures invisibles. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les contrées du rêve, a priori, on y va en rêvant. Lovecraft nous dit bien, d'ailleurs, dans la recherche de Kadat, que très peu d'humains y sont allés, mais c'est vrai que on peut aussi y aller, comme je vous l'expliquais, sans rêver. C'est-à-dire, vous trouvez un passage. Il y a des passages entre la réalité et le rêve, mais des passages tangibles, physiques. Et on a imaginé dans notre ouvrage qu'effectivement, Abdul al-Azred, lui, avait trouvé ce passage, faisait partie des très 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 rares voyageurs à avoir trouvé ce passage.
Il y a aussi, alors on a déjà évoqué un petit peu les habitants de Kadat, mais alors il y a aussi toute une faune qui évolue dans Kadat et autour de Kadat, qui elle aussi nous fait rêver pas mal.
Oui, et puis, du coup, je vais faire un lien aussi avec quelque chose dans la façon de travailler. Quand on a commencé à travailler sur le cadavre, on s'est demandé aussi si on allait développer toutes les contraintes du réalisme. C'était, on a eu cette envie-là, on s'est aperçu que c'était trop riche, qu'il y avait trop de choses à développer. Malgré tout, dans toutes les pérégrinations que peut avoir Randolph Carter dans les contrées du rêve, il y avait beaucoup d'aspects de cités, d'endroits et de descriptions qui sont peu ou prou aussi incluses dans Kadath même. Alors, Kadath est vu quand même dans l'ouvrage, elle est vue de haut, du haut du château, parce que Randolph Carter arrive à accéder à Kadath, mais par le haut, et en gros, il a une vue panoramique de la cité, c'est la seule description que l'on aura à tout jamais de la description de Kadath. Donc en gros, pas grand-chose. Sinon que malgré tout, dans les contrées du rêve, il y a beaucoup de descriptions assez poétiques, assez bucoliques, presque bucoliques de certaines cités. C'est assez mignon, c'est plutôt médiévalisant. Ce sont des petits ports.
Quoique le plateau de Langres, c'est pas très bucolique.
Alors, non, Langres, c'est déjà plus aride, on va dire. Mais autrement, non, les lieux de vie, il y a les villes sont plutôt sympas, en fait, au sens. C'est presque, je vais pas dire c'est médiéval fantastique, mais pas loin quand même.
Il y a un aspect très littérature de fantasy. Hein. Il y a des endroits, des contrées du rêve qui sont absolument charmants et on pourrait y passer des vacances très agréables.
Je termine quand même juste sur les. Du coup, dans le bestiaire, évidemment, tout n'a pas été développé, que ce soit le bois des ou. Si, il y a des petites choses, il y a des références, il y a des connexions. Que ce soit le bois des ours ou sur toutes les créatures, la façon dont Pikman a pu muter, puisqu'il apparaît aussi dans l'ouvrage. Toutes ces choses-là, tous ces éléments sont aussi dans Kadath, bien sûr. Maintenant, on pourra en développer 10 fois plus aussi, parce que le texte d'origine est extrêmement riche, et encore plein d'autres descriptions qui appelleraient l'image. Ouais.
Deux anecdotes, l'une à propos des zougs, c'est marrant parce que dans la première traduction, les zougs, qui sont des drôles de petites créatures, un peu comme une sorte de lémurien, qui vivent dans des bois étranges avec des champignons gigantesques, plus ou moins luminescents, il est dit que les zougs passent leur temps à prier. Alors on trouve ça très très étrange, ils passent leur temps à prier, c'est des animaux qui adorent les champignons, c'est pas faux. Et quand j'ai repris le texte anglais, c'est pas praying qui est écrit, c'est prying, P-R-Y-I-N-G, et non pas P-R-A-Y-1, c'est ils ne prient pas, ils passent leur temps à fureter. C'est comme les petits écureuils, ils, comme ça, ils sont toujours en train de bouger, ça n'a rien à voir. Mais ça nous avait quand même bien fait rêver, il y a beaucoup d'autres choses. Et on a vu un débat, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, Raphaël, sur la hauteur de la montagne. Et la hauteur, en l'occurrence, de Kadath. Et on se disait, Raphaël me disait, non, mais c'est 300 mètres de haut, ou 600 mètres de haut, je sais plus. Et moi, je t'avais dit, mais non, c'est plusieurs kilomètres, c'est très 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 haut, c'est des kilomètres et des kilomètres de haut. Enfin, on discutait de ça, et une nuit, je rêve que je suis au sommet du château de Kadath. Je suis au sommet et je me penche comme ça par-dessus le rebord pour essayer de voir la hauteur et je m'aperçois que quasiment ça touche l'espace en fait. Je suis très très haut au-dessus de la terre et donc je dis à Raphaël et à Nicolas, écoutez, pour Kadath, je sais, j'y suis allé. c'est extrêmement haut et Nicolas, est-ce que tu pourrais représenter comme ça un truc? C'est faramineux, c'est une hauteur stupéfiante, c'est plusieurs centaines de kilomètres.
Donc évidemment, tout ça, on l'a mis en abîme dans le bouquin, c'est-à-dire que la hauteur de Kadath dépend un peu de la personne qui le regarde.
Oui.
en fait, le château de Nyx, ce lieu, c'est l'axe du monde.
C'est l'axe des contrées du rêve, c'est l'axe. C'est l'axe.
Ce qui m'a frappé aussi, entre autres, dans ce guide qui est extrêmement complet, et moi j'aimerais beaucoup pouvoir rêver et aller arpenter Kadath en emmenant votre guide sous bras, c'est que vous n'hésitez même pas à nous parler des auberges. On peut faire étape, on nous décrit la nourriture.
Oui, alors ça c'est un des trucs dans tous les bouquins de cette collection-là où on décrit comme ça des lieux imaginaires, c'est important de décrire ce qu'on y mange. Si on va captiver le lecteur, il faut absolument parler de bouffe.
La preuve.
Il y a un côté qui est du routard, c'est-à-dire qu'on vous indique les bonnes auberges, et évidemment, on s'est dit c'est du Lovecraft, il y a nécessairement une auberge où on sert du poulpe. Enfin, aussi autrement, donc on avait imaginé un tentacule comme ça qui sort d'un lac, oui. Et il y a un cuisinier qui trouve au fur et à mesure que le tentacule sort, et le tentacule est infini, donc il sert d'étrange tentacule à ses clients. On a imaginé toutes sortes de choses comme ça. Voilà.
C'est vraiment un ouvrage en même temps qui est assez ludique, hein, c'est-à-dire que vous pouvez lire ces nouvelles comme vous le voulez, mais à côté, il y a des petits textes qui vous renseignent sur tel lieu à visiter, ne ratez pas ça, si vous avez vu, ou si vous allez dans tel quartier, faites attention, il peut y avoir telle chose. Là, il y a une auberge, vraiment, il ne faut pas la rater, elle est géniale.
Il y a des étoiles comme dans le Michelin. Chaque lieu a deux notes, une note de dangerosité, il faut faire attention, si vous y allez, vous n'avez pas de chance de devenir fou. Et puis une note culturelle, c'est-à-dire que ça vous apprend beaucoup de choses sur Lovecraft, les contrées du rêve, les choses comme ça. S'amuser, coder comme ça, tout, chaque lieu.
Oui, enfin, les endroits les moins dangereux, c'est ceux où on peut seulement devenir fou.
Voilà. Non, il y a un endroit, il y a un petit banc de pierre, vous l'avez peut-être vu passer là dans les images derrière nous, il y a un petit banc de pierre qui donne sur des bancs de brume, enfin, d'autres, des nappes de brume, et on peut admirer la ville. Là, vous pouvez très bien vous arrêter sur ce petit banc de pierre et souffler un peu, hein. Il n'y a pas que des endroits terrifiants.
Méfiez-vous quand même parce qu'il est sur le chemin qui monte chez ce garçon.
ce qui est très amusant aussi, c'est la météo de Kadat.
Elle change. C'est n'importe quoi la météo de Kadat. Il fait toujours très beau chez dangerosité énorme. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous pousser. Et donc la météo, il fait toujours très beau dans l'éminence de l'Arab Food, Abdullah Lazal, le rédacteur du Necronomicon, et il fait toujours pas très beau chez Lovecraft, c'est brumeux, c'est Providence, c'est maritime. Et ailleurs, c'est des bons. Il peut y avoir des changements de temps, de météo, très brutal, en passant d'une rue à l'autre, chose comme ça. Toujours l'idée qu'en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on a dans la tête, en fait, c'est ce qu'on y amène, en fait, chaque rêveur y amène, en fait,
sa psychologie.
Donc si l'envie qu'il fasse beau, il fait beau.
Et chaque rêveur, ça peut être vous aussi, les lecteurs, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce livre, ce guide, il est intitulé Guide de la cité inconnue, c'est aussi une invitation au rêve et au voyage, c'est-à-dire que nous, on présente des rêves, mais vraiment, je suppose, je veux croire qu'en lisant ce livre, chaque lecteur se fera sa propre idée de son Kadat et pourra lui aussi, évidemment, arpenter Kadat à sa guise.
En fait, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait une quinzaine d'éminences, je pense que ça marche.
Alors, on est justement en train d'admirer un certain nombre des illustrations de Nicolas Fructus. Alors, j'aurais quand même deux questions pour revenir un petit peu sur ce que tu nous as dit tout à l'heure. Alors, la première, on sait que tu arpentes les rues de Kadat sous le nom d'Auguste Philistin. Et j'aimerais savoir, vu ce que tu nous as expliqué, si ce pseudonyme, c'est en référant justement au fait de ne pas vouloir remarcher dans les traces de Doruyer et d'autres, de refaire quelque chose. Donc, Philistin pour tout détruire, pour reconstruire.
Si tu as fait des liaisons tout seul, oui.
Oui. Non, c'est pas lui qui a décidé de son nom.
C'est pas moi qui ai décidé de mon nom, et en même temps, j'avais pas forcément envie d'intégrer le lieu tout en sachant que de toute façon, je pouvais pas faire autrement que d'y être. Voilà, c'est juste. Au départ, j'avais pas forcément envie d'y être. Je trouvais que la proposition était plus intéressante de mettre vraiment l'accent sur les éminences des autres.
Mais en fait, tu nies toujours y être allé. Hein.
Oui, mais j'y suis allé.
Je t'y ai vu plein de fois, je t'assure. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en abîme dans le bouquin. C'est-à-dire qu'on raconte un petit peu le processus de création du bouquin à travers de ce que je raconte moi. Et effectivement, à un moment, c'est à ce moment-là que je nomme Auguste Philistin. Je dis faire un rêve. Donc je rencontre ce monsieur dans son palais, vous verrez si vous lisez où il habite. Et il est frénétique, il dessine, il a une longue vue pour regarder.
Voilà, tiens.
Et puis, je sors de Kadat, je reviens dans le monde normal, et je trouve la lettre de l'éditeur qui me dit « Tu vas travailler avec Nicolas Fructus pour faire... » Donc, tout le processus, comme ça, est mis un peu en abîme dans le bouquin.
Malgré tout, quand même, le principe de l'éminence qui est en train de pousser, là, dans laquelle je suis, c'est une sorte de palais pseudo-romantique, un peu désaffecté, avec plein de plantes et tout. Il n'y a personne, En gros, il n'y a que moi, effectivement, j'ai juste des postes d'observation, mais je suis, par rapport au plan, d'ailleurs, je suis relativement excentré. Enfin, je suis dans des parties qui sont en train de pousser, qui sont entre le port et le centre de la cité. Et, mais je reste toujours dans cette position d'observateur, un peu loin quand même, parce que tout ça, c'est un peu sale, c'est un peu bizarre. Donc, je reste quand même en retrait de tout ça.
Mais dans une position en fait de voyeur, parce qu'en plus, Auguste Philistin a une lunette spéciale qui lui permet d'observer.
Oui, oui, tout à fait, voyeur.
je vois que l'heure tourne, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que j'ai repéré il y a quelques Lovecraftiens.
Une dernière remarque. Une dernière chose, c'est vrai que pour nous tous, ça a été une expérience extrêmement marquante. Voir que l'écriture, c'est souvent un travail solitaire. Et là, on était solidaire, c'est-à-dire qu'on a travaillé, chacun a travaillé un peu dans son coin, mais on était en relation constante, en correspondance constante. Et c'était vraiment grâce au travail de Raphaël, qui ensuite a fait se croiser les textes. C'était absolument génial, si vous voulez, de pouvoir se rencontrer, de faire cet ouvrage qui est vraiment unique, si vous voulez. D'habitude, un livre, si deux auteurs l'écrivent en collaboration, bon, je peux penser à Boileau Narcejac ou à Fouterou ou les Pentini, bon, l'écriture se fond, on ne sait plus trop qui a écrit quoi, etc. Ou alors, c'est une anthologie nouvelle, mais chaque auteur est vraiment distinct. Là, j'ai envie de dire que notre particularité ou la particularité de chacun, elle est respectée, et en même temps, on se fond pour faire quelque chose de supérieur à nous tous. Et d'autant plus supérieur à nous tous, qu'il y a aussi Lovecraft, hein, évidemment, qui est au cœur du projet. Donc, on s'est unis à lui, on s'est unis à son âme. Et on propose aussi aux lecteurs de nous rejoindre. Je pense que ça fait quelque chose qui est juste extraordinaire. Pour l'anecdote, c'est un livre dont le premier tirage est parti extrêmement vite. Il est réimprimé constamment et malheureusement, je ne peux même pas vous dire à aller le retrouver en haut. Il est encore épuisé, à nouveau épuisé. Alors, il est en cours de réimpression, si j'ai bien compris. Ouais. Et c'est un livre qui passe son temps à disparaître.
ce qui est très logique pour un livre Lovecraftien, quelque part.
Mais qui peut être un peu gênant quand même.
Alors, les questions.
Non, c'était pas tellement une question, c'était plutôt une remarque. Quand vous disiez que vous n'arriviez pas en territoire vierge pour l'illustration lovecraftienne,
ouais.
Oui et non. Parce que Lovecraft, de son vivant, quand il était publié dans Weird Tales, n'avait jamais été illustré. Aucune première, jamais aucune couverture.
Pas dans Weird Tales, mais dans Astounding Stories.
Ah, ouais. Et pas, je parle dans Weird Tales, vous l'avez le plus gros, il n'avait jamais été illustré de son vivant par Astounding, mais ça c'est l'exception qui confirme la règle. Il n'était pas assez connu de son vivant pour être illustré. Il était beaucoup moins illustré par exemple des Silver Queen qui étaient des grosses ventes pour le test. Donc d'une certaine façon, vous étiez en territoire vierge quand même.
Oui, mais quand je parlais du phénomène de capillarité entre quelquefois les univers de certains dessinateurs et puis les œuvres littéraires, notamment pour la France, moi je vois quand même, il y a quand même pas mal de couches de dessinateurs qui sont superposées, et notamment quand même à partir, voilà, même en sortant Druyet, Andreas et d'autres dessinateurs, même en sortant ces personnes-là, à partir du moment où il y a eu le jeu de rôle, par exemple, ça a amené beaucoup de dessins. Puis du jeu de rôle, ça amène aussi beaucoup de vision dans les films, dans les développements, dans les designs de films, les créatures, tout ce qu'on veut, tout ce qui est un peu Lovecraftien, un peu poulpeux, un peu, dès qu'on est dans l'horreur, fantastique, avec du tentacule. Bon, il y a quand même un lourd patrimoine de tout ça, et c'est vrai que c'est pas forcément, je trouve que c'est pas forcément simple d'essayer de poser une vision, surtout en repartant des textes d'origine, parce que ça peut, encore une fois, on est dans une, quand on revient au texte d'origine, on est presque dans une réduction par rapport à l'inflation graphique qu'il a pu y avoir décennie après décennie. C'est-à-dire que même si le jeu de rôle est à la fois très respectueux de certaines choses chez Lovecraft, en même temps c'est un fourre-tout. Et cette sorte de va-et-vient permanent fait qu'il y a une profusion de visuels, et c'est exactement pareil pour les descriptions, les textes, ou toutes les discussions qu'on a pu avoir sur la classification des dieux, par exemple, qui sont... Alors, quand on se place du point de vue de Lovecraft, il y a quasiment rien. Quand on commence à regarder du côté de... Comment il s'appelle Clark Ashton Smith
possible.
C'est Clark Ashton,
si, ou Clark Ashton Smith ou d'autres ont commencé à cataloguer tout ça. Effectivement, Giroux est plutôt reparti sur les bases postérieures de Lovecraft pour classer tout ça.
C'est Derleck.
Ça a apporté des descriptions, des visuels, des choses qui n'existaient pas chez Lovecraft à l'origine. Ouais. Donc ça, voilà, ça amène, c'est presque un degré de pénibilité supplémentaire quand même. Hein. Voilà.
Là, tu m'inspires une remarque. En fait, un truc qui est important, c'est qu'on n'a pas du tout regardé dans les épigones de Lovecraft. On s'est vraiment, moi, je suis vraiment remonté au texte de Lovecraft et je me suis borné à ça. Et justement, sur la classification des dieux, on l'a refaite, en fait. Avec, encore une fois, le concours de la traduction, puisque les grands anciens en français, il y a au moins trois termes derrière, Great Old Ones, Old Ones et Great Ones, en anglais, et quand on lit, c'est vraiment pas les mêmes bestioles. Donc, ça, c'est un travail qu'on a aussi à faire.
Oui, alors ça pose effectivement un gros gros problème, cette traduction des Old Ones, Great Ones, Great Old Ones, parce que moi, ça n'arrête pas de monter ce truc, c'est-à-dire que par moment je me demande si j'ai pas fait une erreur quand même, et aujourd'hui j'aurais tendance à dire oui, je me suis trompé, parce que je pense que ce que tu dis est vrai à 60%, et en même temps, parfois Lovecraft lui-même peut-être oublie certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a certains cas où les dieux chez Lovecraft, les Great Ones vont vraiment, comment dire, désigner nos dieux à nous, mais il y a d'autres créatures, voilà, à côté desquelles nos propres dieux ne sont que d'infiniment minuscules fourmis. Et il faut bien voir une chose, c'est que pour Lovecraft, de toute façon, nous autres hommes, femmes, par rapport aux dieux, on n'existe pas. C'est-à-dire que les dieux ne nous veulent rien, on n'existe pas, ils s'en foutent. Donc il n'y a pas de volonté, si vous voulez, les dieux ne sont ni bienveillants ni malveillants. Par rapport à nous, c'est rien.
Monsieur.
Ça, c'est un imaginaire qu'on s'est construit un peu après. La plupart des textes de Lovecraft se passent en Nouvelle-Angleterre, et en fait, il y a peu de textes de Lovecraft avec des décors exotiques, si je puis dire. Il y en a.
On peut avoir d'accord. Je vois pas très bien à quel texte vous faites allusion. Mais le Necronomicon, c'est un texte qui a été écrit à Damas. Enfin, dans Juan Romero.
Ouais.
Mais dans le, il faut, enfin, chez alors, Lovecraft, bon, il a certes voyagé, il était en correspondance avec des tas de gens, ça l'amusait de se faire passer pour l'ermite de Providence, bon, enfin, c'est, j'ai envie de dire, c'est presque un jeu. 80% de ses textes, enfin, je suis pas là à analyser très précisément, mais la grande majorité du corpus lovecraftien, ça se déroule en Nouvelle-Angleterre, et notamment dans la région de, enfin, il n'a pas forcément écrit des textes autour de Providence, il a réinventé Arkham, etc., mais c'est vraiment en Nouvelle-Angleterre, donc le nord-est des États-Unis, si vous voulez. Alors certes, on va trouver des textes qui se passent en Antarctique, des textes qui se passent dans le désert australien, des textes qui vont se passer dans le Pacifique, où il y a même, enfin, on peut trouver d'autres choses, on peut aller en Suède, si vous voulez, ou même en France, pourquoi pas, ou en Angleterre, mais le Mexique, comme ça me frappe pas vraiment. On a une nouvelle avec un sous-marin qui se déroule le long des côtes d'Amérique latine, où il revoit vaguement l'Atlantide. Bon, le Mexique, j'ai pas de, ça m'évoque pas une nouvelle en particulier.
Mais en termes de visuel, on est resté très. Il y a les ambiances viennent vraiment de chaque auteur. Donc il y a le quartier arabisant, donc très Damas. On voit d'ailleurs de temps en temps la grande pyramide noire et le minaret derrière nous là, qui est donc le quartier qui est lié à Abdul Nasred. Le quartier de Randolph Carter Lovecraft est très très Nouvelle-Angleterre. Le mien n'existe pas encore. En fait, il émerge à la fin, donc on l'a pas trop typé. Et le dernier, un quartier médiéval, vraiment, puisqu'on a donc quatre personnages viennent donc du 6e siècle, du Moyen-Âge, du 20e siècle, enfin c'est Lovecraft, donc du 1920 en gros, et d'aujourd'hui.
On s'est typé un peu comme ça. Autrement, dans les références que je peux voir, là, ben voilà, c'était le plan. Ouais.
Non, je ne saurais pas trop vous répondre, sinon qu'il y a des développements de temples, il y a des temples qui poussent aussi en fonction des dieux, des, aussi
ouais,
qui
tout à fait.
Poussent la planète, de façon assez anarchique, parce qu'un temple peut en chasser un autre, et ils sont de toute provenance, de tout style, et de tout, voilà, donc il n'y a pas, là pour le coup, il n'y a pas de, c'est pas typé, il n'y a rien de typé particulièrement.
Ok, d'autres questions ? J'ai l'impression que vous avez été très exhaustif.
Moi, ouais, comme disait David, malheureusement, vous ne pouvez pas l'acheter.
Bon, ça, c'est... Là, on a joué dans la tentation. Alors moi, j'aurais peut-être une dernière question pour conclure. Une fois qu'on a écrit un ouvrage tel que Kanat, est-ce qu'on peut encore relire Lovecraft après ?
Ah, surtout, oui, carrément. Ben, en fait, je me suis aperçu... le fait d'avoir fait le livre, après, moi, je me suis retrouvé alors en dehors des salons, des présentations comme ça, où effectivement ça ranime la flamme à chaque fois. Malgré tout, là, il y a un an et demi, j'étais à un colloque Lovecraft à Clermont-Ferrand, et je me suis dit, je vais tomber chez les fous. ça va être. Je me disais, tu vas être vraiment en deçà de tout ce qu'ils vont pouvoir développer et tout. Non, ça a été juste passionnant parce qu'ils développent. Chacun développait des points assez précis et du coup, on remettait une couche et font. Ils dressaient des passerelles, ils faisaient des prolongements un peu de tout ce travail sur Lovecraft. Donc, il y a tellement de choses à creuser et du coup, à force, je continue à en lire, à alimenter tout ça. Non, c'est presque c'est un complément de tout ça, c'est un complément dans Lovecraft. Je vois pas.
Moi, je dirais même plus qu'on doit le relire dans les nouvelles traductions, c'est
oui.
Indispensable.
Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre de cette expérience. Parce que, indépendamment du travail sur la nouvelle, donc en parallèle, je retraduisais donc toutes les nouvelles se déroulant dans les contrées du rêve, et on avait des délais très serrés parce qu'on voulait sortir le livre pour avant Noël, etc. Et on voulait sortir les deux livres en même temps. Et je vous avoue que traduire du Lovecraft, c'est très 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 difficile. J'estime qu'il faut à peu près 3 fois plus de temps, si vous voulez, pour traduire une page de Lovecraft que pour n'importe quel autre auteur. C'est juste extrêmement dur. Je vais pas trop développer pourquoi. Et ça a été pour moi des périodes de travail extrêmement intense. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. Je travaillais entre 18 à... je dis pas de bêtises. J'ai travaillé les deux dernières semaines 18 à 22 heures par jour, 7 jours sur 7. Je sais pas comment j'ai fait. Enfin, je l'ai fait. Ça a été fait. Voilà. Chaque quart d'heure comptait. Je savais que je déjeunais. Je prenais une demi-heure pour déjeuner, c'est-à-dire deux quarts d'heure. Je savais ce que ça voulait dire, pas deux quarts d'heure. Et ça a été. J'étais hanté par ce truc. Il a fallu. J'ai mis 3 mois à m'en remettre. C'est-à-dire que pendant 3 mois, je n'ai pas pu écrire une seule ligne pour moi. Et je n'arrivais pas. Et je n'arrivais pas. Je crois que je voulais pas forcément non plus d'ailleurs sortir de Lovecraft. Donc j'ai continué à lire de Lovecraft, à lire sur Lovecraft. Je voulais pas quitter cet univers, cet endroit. À tel point que ma femme m'a menacé de divorcer si je le retraduisais. Mais bon, ce que j'ai fait quand même un peu après, faut pas lui dire.
Peut-être je peux juste rajouter une chose sur le temps, comme tu dis, c'est un truc qu'on sait pas bien comment ça s'est passé, mais on l'a fait extrêmement vite.
Ça s'est fait, oui.
Et toi, les traductions en parallèle, je pense qu'on a bénéficié d'un gain de temps en se réfugiant dans Kadat, dans une poche spatio-temporelle, quelque chose comme ça. Je vois pas comment on a pu faire autrement. Parce que. Je me souviens très bien, on s'est rencontrés, Nicolas et moi, on ne se connaissait pas du tout avant, en mars, au Salon du Livre.
Ouais, c'est ça.
Et le bouquin est sorti en novembre. Et franchement, quand je le dis, j'arrive même pas à savoir comment on a fait.
C'est vrai que ça paraît totalement inouï, mais même pour les traductions, parce que ce sont des délais. Genre, vous demandez à n'importe quel éditeur pour un livre à peu près lambda, mars pour novembre, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait les réseaux de distribution qui permettent pas, etc. C'est pas possible. Mais en plus, là, c'est Lovecraft, et c'était deux livres, et c'était 4 auteurs, un artiste. Enfin, c'est un projet fou. Et pourtant, ça a été fait.
Mais notre éditeur est fou.
un petit point. Bon, on a dit que Kadat est temporairement épuisé, donc non disponible. Mm-hmm. Mais est-ce que tes traductions sont disponibles pour lire Lovecraft ?
Elles sont disponibles. Alors, malheureusement, j'avoue, ils s'en sont rendu compte là, maintenant. Je suis tellement pris par l'organisation du festival et d'autres choses à côté que je n'ai... À ma grande honte,
prévisionner toi-même.
Voilà, j'ai pensé à mes amis auteurs invités, et j'ai pas pensé à. Non, j'ai pas. Malheureusement, non, je n'ai pas commandé les ouvrages.
Navré. Bon. Non, par contre, si on veut faire de la pub, on peut. Il y a le bouquin.
bouquin qu'on a fait avec Nicolas après, avec d'autres auteurs, qui a Un an dans les airs, qui est inspiré de Gilbert, qui lui est disponible là où j'ai lu tout à l'heure.
Voilà, où on change de domaine,
ouais.
Mais qui est tout, tout aussi passionnant dans son genre que Kadab.
C'est la même logique, c'est s'emparer de l'imaginaire d'un auteur et puis voilà, de raconter une histoire, de se balader dans son univers, de le rencontrer lui-même aussi. C'est la même logique. Mais la réalisation est extrêmement très différente.
Et là aussi, les illustrations de Nicolas Fouché.
C'est superbe.
Donc absolument magnifique.
Mmh, superbe.
Bien, bah écoutez, je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos trois intervenants qui, je pense, vous ont donné envie de voir le livre qu'il est, sur lequel il est impossible de mettre la main. C'est le nouveau Necronomicon.
Ouais, voilà. D'ailleurs, je vais le garder.
Merci à tous. Merci.
Si vous voulez jeter un œil,